France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et pour le 1400e numéro inédit de l'émission, troisième épisode de notre série consacrée à l'assassinat de John Kennedy. Depuis le meurtre de JFK, le 22 novembre 1963, le monde se divise en deux. Ceux qui se fient à la thèse officielle, le tireur isolé, validé par la commission Warren, et ceux qui n'y croient pas. Parce que, trop simple, pas présentable, cet événement mérite mieux qu'un scénario censé arranger tout le monde. Saura-t-on un jour la vérité? En attendant, enfonçons-nous dans les rues agitées de la Nouvelle-Orléans, là où l'assassin présumé, Lee Harvey Oswald, est né et où il a passé son dernier été. Lors de ce passage en Louisiane, des liens avec des personnages mystérieux, accoquinés à la CIA, ont pu être établis. Et c'est là que la graine du complot contre Kennedy pourrait avoir pris racine. C'est en tout cas la certitude d'un procureur déterminé à étayer cette thèse, Jim Garrison. En 1966, 3 ans après le meurtre, il relance l'enquête et intente le seul procès jamais lié à cette affaire, celui d'un certain Clay Shaw, suspecté d'être l'un des rouages du grand complot réel ou supposé contre le président Kennedy. Notre invité aujourd'hui, Jean-Baptiste Torret, auteur et critique de cinéma, auteur d'un essai publié en 2003 intitulé « 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, l'assassinat de JFK et le cinéma américain ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
« 21 décembre 1991, Dallas, Dealey Plaza. Le cinquième étage du dépôt de livres scolaires est plongé dans le noir. Dans la pénombre, un duel. Le sourire de John Kennedy défie le regard sombre de Lee Harvey Oswald. Mais il n'y a pas âme qui vive. Le Sixth Floor Museum ferme ses portes à 17h. Ouvert à la fin des années 80, ce musée raconte les lieux où s'est déroulé le crime du siècle, mais aussi une vision officielle et figée de l'histoire, celle établie par la commission Warren. En contrebas, ce soir de décembre, la capitale texane est sous les feux des projecteurs. Il se trouve qu'Hollywood est descendu au Texas pour réveiller de vieux démons. Le réalisateur Oliver Stone, entouré d'une pléiade de stars, vient présenter au Texas son film-événement JFK. Et déjà, la polémique enfle.
Une première du film appelé JFK a eu lieu à Dallas en fin de semaine. L'accueil du public texan promettait d'être intéressant dans la mesure où la thèse défendue par le cinéaste est que Lee Harvey Oswald n'est sans doute qu'un bouc émissaire. Le public texan, surtout le public jeune, est sorti du film enthousiaste et le plus souvent convaincu. Même si la presse américaine est allée jusqu'à reprocher à ce film événement d'être un film de propagande.
Tout Hollywood a voulu participer au premier grand film osant aborder le mythe Kennedy. Et à ce jeu-là, c'est Kevin Costner qui a obtenu le rôle-titre. Le beau et gentil cow-boy de Danse avec les loups ne prête pas ses traits de chevalier blanc au président martyr, non. Mais à une figure historique un peu oubliée, un certain Jim Garrison. Le film se base en fait sur l'ouvrage autobiographique de ce procureur qui restera l'unique magistrat à intenter un procès dans l'affaire du meurtre de Kennedy. C'était en 1968, à la Nouvelle-Orléans, épisode oublié par la plupart des Américains et pour cause, le procès a tourné au fiasco. Sous couvert de grands films hollywoodiens, Oliver Stone, lui, a confectionné un redoutable manifeste contre le gouvernement américain et ses mensonges présumés. Et c'est peu de dire que le film est efficace. Un peu trop d'ailleurs. Dans une scène légendaire, par exemple, déborde toute la charge accusatrice du film à l'encontre du complexe militaro-industriel américain qui pour Stone et son héros, Jim Garrison, est à l'origine de l'assassinat de Kennedy. Extrait de la rencontre du héros avec un certain Monsieur X, pas celui de Patrick Pénomé, dont l'émission du même nom s'inspire peut-être.
Je n'avais pas réalisé que Kennedy était aussi dangereux pour l'establishment. C'est ça le pourquoi ?
Voilà la vraie question. Le pourquoi ?
Le qui et le comment ne sont là que pour amuser le public. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia. occupe son esprit comme un jeu de société, il l'empêche de se poser la plus importante question. Pourquoi ? Pourquoi a-t-on tué Kennedy ? Qui en a profité ? Qui a le pouvoir d'étouffer l'affaire ? Qui ?
Contre-vérité, manipulation, révisionnisme, la presse américaine se déchaîne contre le dispositif du film qui mêle images de fiction et images documentaires. Mais Stone s'en moque. Parce qu'il est en mission, il veut que le dossier Kennedy soit rouvert. Il s'en explique d'ailleurs sur le plateau TF1.
Alors pourquoi avoir voulu reparler de cette histoire qui est vieille de près de 30 ans ?
Parce que le gouvernement n'a jamais dit la vérité, ni la presse en Amérique. Le grand mensonge américain, je crois que c'est que Oswald l'a tiré seul.
Et vous avez le sentiment qu'avec ce film, vous allez conduire le gouvernement ou certains aux États-Unis à rétablir la vérité ? Public.
J'espère. Les dossiers secrets du CIA, du FBI, du militaire sont cachés du public. Mais on espère, maintenant il y a un momentum pour éclairer l'histoire américaine à leur peuple. J'espère.
Le film JFK est un immense succès en salle. Mais mieux encore, il a l'effet escompté. La nouvelle vague d'intérêt pour l'assassinat de Kennedy et ses nombreuses zones d'ombre pousse le Congrès américain à agir. Le 26 octobre 1992, il vote une loi imposant de recenser toutes les archives qui concernent de près ou de loin le meurtre de Kennedy. En gros, tout ce que la CIA, le FBI, la police de Dallas et nombreuses autres entités ont soigneusement dissimulé depuis 30 ans, tout cela doit être rendu public d'ici 25 ans, soit en 2017. Mais avant de nous perdre dans le brouillard de ces milliers de documents déclassifiés, replongeons-nous aux sources du doute, dans les brumes électriques des bayous de Louisiane, là où se déploie l'enquête du procureur Garrison. Alors retour au 22 novembre 63, encore et toujours.
In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
Cette part nébuleuse de l'affaire JFK commence donc dans les vapeurs de cognac du turbulent quartier français de la Nouvelle-Orléans. À l'écoute des nouvelles en provenance de Dallas, les esprits s'échauffent. Il y a ceux qui pleurent, le président, contrairement à d'autres, surtout ici, pour qui sa disparition est une joie. Un peu trop d'ailleurs au goût de Jack Martin, qui calme son ami et patron, le vieux détective Guy Bannister. Mais la discussion s'envenime, et c'est là que la fiction d'Oliver Stone se faufile une première fois.
Toutes ces années où j'ai cru que t'étais dans mon camp.
Il y a des fois où j'ai... Non, tu plaisantes.
Je pourrais pas être plus sérieux, Jack. Tes yeux rouges aujourd'hui m'ont fait m'interroger sur ta loyauté. T'as fouillé dans mes dossiers.
Hein?
T'as fouillé dans mes dossiers, n'est-ce pas, sale petite fouine?
Tu sais que tu commences à être paranoïaque, Jimmy. Ah, vraiment, je te jure.
T'es venu fouiller dans mes dossiers. Ouais, t'es qu'un sale espion.
Oh, mais nom de Dieu, pourquoi veux-tu que je fouille dans tes dossiers? J'ai assez vu de choses ici cet été pour écrire tout un bouquin.
Qu'est-ce que tu veux dire, espèce de salaud? Qu'est-ce que tu veux dire par écrire tout un bouquin?
Je veux dire, mon papa, tu sais très bien ce que je veux dire. Nous avons vu ici un tas de trucs bizarres, des gens bizarres.
T'as rien vu du tout.
Arrête, fais pas ça.
Ce Jack Martin est admis aux urgences de la Nouvelle-Orléans le soir même, tabassé par le dit Bannister à coups de crosse de revolver. Au policier qui l'interroge, Martin se répand. Son patron a conspiré tout l'été avec des gens tordus dans son bureau du 531 Lafayette Street. Oui, ils auraient tous à voir avec la terrible affaire du jour. Et surtout, le plus tordu des tordus, un certain David Ferry, à la sombre réputation. Ce Ferry, ancien pilote de la Navy, serait à Dallas pour orchestrer la fuite des assassins de Kennedy. Le procureur de la ville, Jim Garrison, prévenu, se met alors sur la piste. Jack Martin, lui, n'arrête pas de balancer sur le pilote. Celui-ci serait non seulement l'un des conspirateurs de l'assassinat de Kennedy, qu'il avait l'habitude d'insulter en public, mais il serait aussi très proche de Lee Harvey Oswald. Bien sûr, il fut son instructeur à l'époque où le jeune Lee était aspirant de la Civil Air Patrol. Puis il est de notoriété publique que Ferry aime la compagnie des jeunes garçons, non ? Et ce Jack Martin, qui a visiblement pris un bon coup sur la tête, se met à fabuler. N'ont-ils pas dit à la télé que la carte de bibliothèque de Ferry a été retrouvée dans le portefeuille d'Oswald lors de son arrestation? L'information rapportée par on ne sait qui et on ne sait quand est totalement fausse, mais elle fera du chemin. Et elle apparaît encore régulièrement dans les théories conspirationnistes. Bref, quand le fameux David Ferry ressurgit le 25 novembre 1963, il a droit à un petit comité d'accueil. Garrison peut prévenir le FBI.
Enquête du Bureau fédéral, 27 novembre 1963. David William Ferry a été interrogé à son domicile. Ferry a déclaré qu'à l'époque de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba, il était très embarrassé et préoccupé par le manque de couverture aérienne fournie aux Cubains qui participaient à l'invasion et qu'il avait sévèrement critiqué le président John Fitzgerald Kennedy, tant en public qu'en privé. Il déclare qu'il ne se souvient pas précisément de ce qu'il a dit et qu'il a peut-être utilisé une expression désinvolte ou familière « il devrait être abattu ». Ferry déclare qu'il n'a jamais prêté sa carte de bibliothèque à Lee Harvey Oswald ou à toute autre personne et que sa carte de bibliothèque, pour autant qu'il s'en souvienne, n'a jamais été perdue depuis qu'elle lui a été délivrée. Ferry a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir connu ou rencontré Lee Harvey Oswald dans le cadre de la Civil Air Patrol ou dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale. Ferry a déclaré qu'il n'avait jamais transporté Lee Harvey Oswald à Dallas ni dans aucune autre ville du Texas à aucun moment.
Avec ses sourcils dessinés au crayon, ses perruques bariolées, ses souris enfermées dans les cages, David Ferry est plutôt déstabilisant. Pour autant, celui qui se prétend hypnotiseur et cancérologue autodidacte ne se démonte pas au moment de donner son alibi au Texas. Il faisait du patin à glace à Houston avec deux amis. Ce qui n'empêche pas les FBI, dans les semaines qui suivent, de poursuivre son enquête autour de Ferry, Bannister et une dizaine d'autres personnes. Car c'est tout un réseau obscur qui affleure derrière ces figures inquiétantes. Un réseau d'anticastristes effrénés, obsédés par l'idée de reconquérir Cuba et d'avoir la tête du leader Maximo. Parmi eux, on trouve évidemment des exilés cubains regroupés dans des groupes paramilitaires, tels Alpha 66, mais aussi des sbires de la mafia qui flirtent avec des agents de la CIA. Mais à ce moment du récit, le peuple américain est encore loin de mesurer ce qui se trame, en son nom. Le patron du FBI, Edgar Hoover, bien sûr, est mis au courant de l'enquête sur David Ferry et consorts, mais celle-ci s'arrête dès le mois de décembre 63. Aucun lien avec Lee Harvey Oswald n'est établi. Quant à la commission Warren, elle passe rapidement sur le dernier séjour du tueur à la Nouvelle-Orléans, pas plus qu'elle ne s'intéresse sérieusement aux jeux troubles des sphères anticastristes. La présence dans ses rangs d'Allen Dulles, l'ancien directeur de la CIA, viré par Kennedy à la suite du fiasco de la baie des Cochons, explique peut-être cela. En tout cas, pendant trois ans, tout cela n'émeut personne. Jusqu'à l'été 1966, quand Jim Garrison, on ne sait quelle mouche l'a piqué, se replonge dans le dossier. Et eureka, il trouve quelque chose qui a échappé à tout le monde. Explication avec une scène clé du JFK d'Oliver Stone.
531 Lafayette Street. Vous vous rappelez à qui était ce bureau en 63?
Bien sûr, Guy Bannister, un ancien du FBI, mort il y a deux ans.
Il recrutait des étudiants pour infiltrer les groupes de gauche à l'université. Il était à la tête de la Ligue anticommuniste des Caraïbes. Tout sortait de ce bureau. Maintenant, regardez ici. 544 Kem Street. 531 Lafayette Street. Même immeuble, d'accord? Mais adresse différente, entrée différente, pourtant au même endroit. Pour les mêmes bureaux là-haut. Devinez qui utilisait cette adresse? Lee Harvey Oswald.
En voilà une coïncidence. Lee Harvey Oswald, devenu militant pro-castriste, aurait ainsi établi le QG de sa section du Fair Play for Cuba Committee au 544 Camp Street, l'une des entrées de l'immeuble où le détective privé Guy Bannister a installé son bureau. Garrison est persuadé que c'est une officine de la CIA pour couvrir ses activités de soutien aux militants anticastristes. Cette adresse, Garrison la trouve notifiée sur l'une des pièces à conviction du rapport Warren, un tract distribué par Oswald dans les rues de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs le voilà, Oswald, qui pointe au bout de son nez dans les archives de la télévision locale. On peut le voir militer dans la rue pour Fidel Castro. On peut même entendre sa voix alors qu'il est invité dans une émission de télévision. Écoutez, c'était 4 mois avant qu'il ne devienne tristement célèbre.
Non, monsieur, je ne suis pas communiste et je pense que cette fausse piste et tout le reste sont complètement ridicules.
Alors, vous êtes marxiste?
J'ai étudié la philosophie marxiste et d'autres philosophies.
Mais vous êtes marxiste. Vous avez admis lors d'une précédente interview à la radio que vous considériez comme marxiste.
Je dirais certainement que je suis marxiste, mais cela ne signifie pas pour autant que je suis communiste.
Si Oswald a eu le droit à un premier quart d'heure de gloire, il le doit à la partition surréaliste qu'il a jouée lors des quelques mois qu'il a passé dans la capitale du jazz. Non content de militer pour le Cuba de Castro, il aurait par là même cherché à infiltrer les groupes exilés cubains. Alors quand ces militants anticastristes le retrouvent dans la rue, l'altercation est inévitable et elle attire l'attention. Garrison, lui, voit les choses différemment. Pour lui, c'est une mise en scène grotesque, orchestrée pour fabriquer la couverture d'Oswald, le petit communiste. La conviction du procureur est faite. Oswald est d'une manière ou d'une autre lié à ce Guy Bannister, le détective privé raciste et anticommuniste, mais surtout ancien flic de Dallas et ex-agent du FBI, que Garrison suspecte de travailler pour le compte de la CIA. J'espère que vous suivez. L'équipe du procureur se lance alors dans une nouvelle investigation. Nom code, The Smith Case. Garrison veut avancer couvert, car il vise gros. Il cherche à remonter toute la filière des nébuleuses anticastristes jusqu'à... Nul ne sait encore. Bannister est mort en 1964, mais on retrouve la trace du fameux David Ferry. Le trublion, moyennant quelques coups de pression et 2-3 arrangements, semble prêt à passer à table. Oui. Bannister et ses proches travaillaient à l'époque pour la CIA. Oui, son bureau était une officine de l'agence qui a prolongé clandestinement son activité de soutien aux exilés cubains. Mieux encore, il sous-entend l'existence d'un camp d'entraînement caché dans les marais, au bord du lac Pontchartrain, qui aurait pu servir de camp de base pour les conspirateurs du 22 novembre 1963. La toile s'agrandit, les enquêteurs progressent, quand soudain la bulle explose. Le 17 février 67, une journaliste révèle dans un article les folles dépenses publiques engagées par Jim Garrison dans ce qui apparaît bien comme une nouvelle enquête sur l'assassinat de Kennedy. Acculé, le procureur doit sortir du bois. À la télévision américaine, il n'y va pas par quatre chemins.
Une enquête de routine sur une éventuelle implication locale dans l'assassinat du président Kennedy a mis à jour certains faits que nous considérons comme extrêmement intéressants. Je dirais donc que l'enquête n'est plus de routine, mais qu'elle est désormais extrêmement intéressante.
Monsieur Garrison, la commission Warren a déclaré qu'Oswald avait agi seul et qu'il n'y avait pas eu de conspiration. Apparemment, vous ne croyez pas au rapport de la commission, est-ce exact?
C'est exact. Je pense que la commission s'est trompée et que nous allons démontrer qu'elle s'est trompée.
Pensez-vous, monsieur, que des résidents de la Nouvelle-Orléans aient été directement ou indirectement impliqués dans l'assassinat?
Pas de commentaire.
La nouvelle est saisissante, l'affaire Kennedy est sur le point d'être résolue. Put your loving hand out, baby. I'm begging.
Hi.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la thèse du complot dans l'assassinat du président Kennedy.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
L'enquête du procureur Jim Garrison sur l'assassinat de Kennedy est d'abord reçue avec beaucoup de scepticisme par la presse américaine. Le New York Times, par exemple, n'évoque qu'en page 37 ces accusations fracassantes venues de Louisiane. Pour les journalistes, la croisade menée par celui qu'on appelle en ville le James Bond de la Nouvelle-Orléans a tout du coup de com'. Le flamboyant procureur a une réputation de grande gueule qui aime bien tirer la lumière sur lui. Précisons qu'aux États-Unis, les procureurs sont des élus, toujours un peu en campagne donc. Et puis les journalistes sont bien informés et considèrent que les données prétendues nouvelles du procureur ont le goût du réchauffé. La plupart des documents qu'il exploite ont aussi été dans les mains des enquêteurs de la commission Warren. Prenons pour exemple cette adresse du 544 Camp Street, point de départ de l'enquête de Garrison. La commission Warren a bien cherché à en savoir plus sur l'activité de militants d'Oswald. Ses conclusions, c'est une adresse fantoche. Jamais Oswald n'y a jamais tenu le moindre bureau. D'ailleurs, la création de sa section louisienne du Fair Play Committee for Cuba n'a jamais été autorisée. Oswald agitait du vent, comme toujours. Autrement dit, les équipes de Garrison ne font que creuser des pistes déjà investies et abandonnées par la commission Warren. Mais en allant plus loin, certes. Ainsi, un avocat de la Nouvelle-Orléans avait rapporté à la commission avoir déjà croisé Lee Harvey Oswald par le passé et, je le cite, il se trouvait toujours avec des gens ayant l'air d'homosexuels. Cette fois, le lien avec David Ferry, témoin clé de Garrison, ne lui apparaît que plus évident. Bien. Mais le 22 février 67, un nouveau coup de théâtre survient. Le journal Le Monde rapporte la nouvelle.
La Nouvelle-Orléans, 23 février. C'était l'un des témoins les plus importants de mon enquête, a déclaré mercredi soir le procureur Garrison, après avoir appris la mort de David Ferry, ancien pilote de ligne, ancien détective privé, dont le cadavre a été découvert mercredi à son domicile à la Nouvelle-Orléans. La police estime qu'il pourrait s'agir d'un suicide. De grandes quantités de pilules, de type non encore précisé, ont été trouvées en effet près du cadavre. Une autopsie complète a cependant été ordonnée en raison des circonstances troublantes de la mort de Ferry, dont le corps était nu, sous un drap, le couvrant jusqu'à la tête, et près duquel a été trouvée une note disant « Quitter cette vie est pour moi une perspective agréable, je n'y trouve rien de désirable ». Plusieurs faits, plus ou moins significatifs, semblent lier David Ferry aux éventuels auteurs d'un complot ayant tendu à assassiner le président Kennedy. D'autres témoins de la tragédie de Dallas se seraient également suicidés. Il est possible que toutes ces morts ne soient pas suspectes, mais elles n'en compliquent pas moins la tâche de ceux qui, aux États-Unis, ne s'estiment pas satisfaits par les conclusions de la commission Warren et poursuivent pour leur compte la recherche d'une vérité de plus en plus difficile à cerner.
La mort étrange de David Ferry, dont on ne sait s'il s'est suicidé ou s'il est mort d'une rupture d'anévrisme, fait l'effet d'une bombe. D'autant qu'un de ses proches, compère anticastriste, est lui aussi retrouvé mort, dans sa voiture, le crâne explosé, quelques heures après Ferry. On aurait voulu les faire taire qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Et peu importe si aucun lien véritable n'a pu être établi entre eux et Oswald, ces disparitions soudaines de témoins clés viennent renforcer le doute qui s'est emparé de l'opinion publique dans l'affaire Kennedy. D'ailleurs, partout dans le pays, des histoires de cadavres présumés en lien avec l'assassinat du président ou avec Jack Ruby, l'assassin de l'assassin, surgissent pour venir hanter la bonne conscience américaine. Nombreux embryons d'indices sont rapportés illico au procureur de la Nouvelle-Orléans, la Louisiane devenant la mecque des complotistes de l'affaire JFK. Craignant la pression de Washington et de nouvelles disparitions de témoins, Jim Garrison passe la seconde. Avec une nouvelle piste sérieuse, son équipe s'est mise sur la trace d'un certain Clay Shaw, entrepreneur à succès, bienfaiteur flamboyant de la ville de la Nouvelle-Orléans et surtout homosexuel notoire, ce qui est encore interdit dans l'État de Louisiane. Le sujet, vous l'aurez compris, obsède un peu Jim Garrison, qui n'hésitera pas à tirer profit de la situation. Il se trouve qu'il a dégoté un nouveau témoin, Perry Russo, un assureur de 25 ans, persuadé d'avoir entendu au cours d'une soirée très arrosée David Ferry conversait avec deux hommes, ce Clay Shaw en question, et un autre répondant au nom de Léon Oswald. Ces joyauderies dissertaient sur le projet d'assassiner Kennedy. Malgré la fragilité apparente de ces témoignages, Garrison inculpe Clay Shaw pour conspiration contre le président Kennedy. Le 1er mars 67, ce dernier est jeté en pâture aux médias.
Monsieur Shaw, avant que les hommes du procureur ne vous arrêtent, aviez-vous la moindre idée que quelque chose comme cela avait été planifié? Que Monsieur Garrison en avait après vous?
Non, aucune idée.
Et quel est votre sentiment général sur l'affaire aujourd'hui?
Vous comprenez que je suis contraint par une ordonnance du tribunal de ne pas parler de l'affaire en tant que telle. Je peux vous dire, comme je l'ai déjà dit, que je suis totalement innocent. Je n'ai aucune connaissance d'un quelconque complot visant à tuer le président Kennedy ou qui que ce soit d'autre.
Vous n'avez jamais eu de lien avec la CIA?
Non, absolument pas.
Et avec une organisation fédérale?
Non, pas du tout.
L'affaire de la Nouvelle-Orléans s'affiche désormais à la une des médias américains, bien alimentée par Garrison lui-même, qui multiplie les effets d'annonce. Clay Shaw, son accusé, serait un agent, la petite main d'une vaste conspiration remontant jusqu'au sommet de la CIA, et pourquoi pas, jusqu'au président Johnson lui-même. Garrison, qui n'a peur de rien, accuse même publiquement le président de protéger activement les assassins de son prédécesseur. Dans le bureau du procureur défilent pour l'instant tout ce que la rue de la Nouvelle-Orléans compte de prostituées, de droguées, de ratés de tout acabit et d'aventuriers à la petite semaine. Du moins, c'est ce que rapporte la presse, qui voit là une farce judiciaire. Car si Garrison et ses équipes s'acharnent à prouver un lien entre Lee Harvey Oswald, Bannister, Ferry, Clay Shaw et tout ce bon monde, les principaux médias américains épinglent le procureur. La chaîne NBC lui consacre une émission entière. Et ce qu'elle révèle du travail et de la personnalité de Garrison est édifiant. On parle de témoins payés, d'autres menacés, d'aveux soutirés après hypnose ou injection d'un sérum de vérité. De fait, la plupart des témoins, après des révélations à l'emporte-pièce, se rétractent. L'un des enquêteurs du procureur quitte l'équipe après 6 mois de travail, dénonçant une vaste fraude. Alors que l'enquête de la Nouvelle-Orléans piétine, sa grande médiatisation impose dans les esprits l'idée qu'un complot interne aux États-Unis aurait eu raison de Kennedy. Et en 1967, il n'est plus question de le nier. CBS, qui s'affiche comme la voix de la raison, consacre 4 soirées événements à l'affaire Kennedy. Le légendaire présentateur Walter Cronkite, celui même qui avait annoncé la mort du président 4 ans plus tôt, tente de répondre à la vague conspirationniste qui s'est emparée des Américains.
Écartons l'absurde et l'irrationnel. Il demeure une poignée de questions réelles et cruciales sur l'assassinat. Des questions auxquelles le peuple des États-Unis n'a pas reçu de réponse satisfaisante. Dans cette série d'émissions, CBS News tentera de faire la lumière sur ces questions. Elles sont regroupées dans 4 volets que nous examinerons simultanément au cours de plusieurs soirées. La question de ce soir, Lee Harvey Oswald a-t-il tiré sur le président Kennedy? Les 2 prochains soirs, nous nous pencherons sur la question de la conspiration. Demain soir, nous interrogerons la possibilité qu'il y ait eu plus d'un assassin sur Dealey Plaza. Mardi soir, nous nous demanderons si, quel que soit le nombre réel de tireurs, il y a eu une conspiration qui a conduit à l'assassinat du président. Et mercredi soir, nous poserons la question, pourquoi l'Amérique ne croit pas le rapport Warren?
Disons-le tout net, le procès Clay Shaw, qui se déroule après 2 ans d'enquête et de nombreux reports, n'apporte aucune réponse satisfaisante. Le dossier d'accusation se fait même démonter, et le prévenu est relâché après moins d'une heure de délibération. Un maigre réconfort pour Clay Shaw, qui voit sa vie brisée. Car il apparaît clairement aujourd'hui comme une victime collatérale, bouc émissaire d'une société qui désespère de connaître la vérité sur l'assassinat de son président. Mais l'acharné procureur Garrison aura tout de même réussi quelque chose. Car pour la première fois, lors de ce procès, le film de Zapruder, resté pendant des années sur les tiroirs de l'agence Life, est montré à une audience grand public. Bien sûr, les images du film avaient déjà été reproduites partiellement dans le magazine Life, et surtout dans le rapport de la commission Warren, mais ce n'est pas la même chose que de les voir défiler devant ses yeux. D'autant que, dans le rapport de la commission, l'ordre de 3 phonogrammes du film, de 313, 314 et 315, avait été malencontreusement inversé. Dans le bon ordre, le choc pour le spectateur est tout autre, car le phonogramme 313 et celui où l'on voit la tête du président éclater. Dans le bon ordre, le doute n'est pas permis. À l'impact de la balle, le corps du président est projeté en arrière. Devant cette vision, on ne peut avoir qu'une seule idée en tête. Le tir mortel venait de l'avant et non de l'arrière, comme l'avance la commission. Cette certitude s'impose dans l'esprit des spectateurs du procès de Clay Shaw et plus tard de tous les Américains, quand sur ABC, en 1975, le film est montré en intégralité pour la première fois dans le show Good Night America.
C'est le film Zapruder. Le cortège arrive maintenant sur Dealey Plaza. C'est la première moto du cortège. Voilà, maintenant le président, Madame Kennedy et le gouverneur Connally. Avant qu'il ne passe derrière le panneau, il salue la foule. Lorsqu'il ressort de derrière le panneau, il s'est déjà fait tirer dessus, ainsi que le gouverneur Connally. Et maintenant, le tir à la tête. C'est le tir qui fait exploser son crâne. C'est la chose la plus horrible que je n'ai jamais vue de ma vie. La commission Warren dit que tous les coups de feu ont été tirés par derrière et que Lee Harvey Oswald est le seul assassin. Mais on peut voir clairement que le corps est violemment projeté vers l'arrière, ce qui laisse complètement penser que le tir vient de devant. Et voici un très gros plan sur la tête du président.
Et maintenant,
on voit bien qu'il y a un mouvement violent vers l'arrière. Ça semble totalement en accord avec les témoignages qui évoquent un tir provenant de la butte gazonnée, en face de la voiture.
1975, cela fait déjà plus de 10 ans que JFK a été assassiné. Près de 80% des Américains sont alors convaincus qu'il a été la victime d'un complot et non d'un tireur isolé. Entre-temps, son frère, Bobby, l'a suivi dans la mort, lui aussi abattu en pleine campagne présidentielle. D'autres leaders politiques, comme Malcolm X ou Martin Luther King, ont connu le même sort. Et à chaque fois, on dégote un Lee Harvey Oswald pour porter le chapeau. À chaque fois, on se sur l'idée que la CIA, le FBI et le gouvernement pourraient être impliqués. Surtout depuis une fameuse nuit de juin 1972, celle du scandale de Trop.
C'est ici que tout a commencé. Dans les locaux abritant l'état-major du Parti démocrate, 4 mois avant l'élection présidentielle de novembre 72. Comme dans un film policier de série B, une nuit de juin dernier, la police surprend 7 hommes. Apparemment, 7 espions, empêtrés dans les fils du téléphone qu'ils viennent de brancher sur les tables d'écoute, quelque peu effarés au milieu des dossiers qu'ils viennent de fouiller. Les démocrates ont finalement décidé de déménager. Mais Watergate, l'immeuble de luxe où ils étaient locataires, est devenu une sorte de monument historique. C'est que depuis, cette affaire d'espionnage a pris progressivement les proportions d'un énorme scandale politique. À mesure qu'il devenait plus évident, malgré les démentis de la Maison-Blanche, que l'opération d'espionnage avait été décidée par l'entourage même de Richard Nixon.
Parmi les 7 espions qui ont posé les micros Watergate, 2 noms ont particulièrement été mis en avant. Frank Sturgis et Howard Hunt, 2 porte-flingues historiques de la CIA, qui ont beaucoup œuvré dans les opérations cubaines de l'agence à l'époque de la révolution castriste. Dans le parfum de suspicion inouïe qui règne alors, certains observateurs remarquent que le faciès de Sturgis et de Hunt ressemble à ceux de 2 badauds présents sur des photos prises le 22 novembre 1963. Sturgis et Hunt étaient-ils présents à Dallas ce jour-là? Et c'est ainsi que l'affaire Kennedy se retrouve à nouveau au centre de toutes les interrogations dans les années 70. Plus que jamais, la question obsédante de l'Amérique contemporaine est reposée. Qui a tué Kennedy? Près de 60 ans après l'enquête de Garrison, 30 ans après le film de Oliver Stone, rien ne peut prouver qu'Oswald n'a pas agi seul ou qu'il fut vraiment un agent de la CIA. On vous l'a dit au début de ce récit, des milliers de documents ont pourtant été déclassifiés entre 2017 et 2021 sur cette affaire Kennedy. Parmi ce fatras de mémos et de rapports, de dates et de noms, aucune lumière ne surgit, au contraire. C'est encore un trou noir qui attire l'attention. Dans une déposition de Richard Helms, ancien directeur de la CIA, rédigée lors de la commission sénatoriale, il lui est demandé « Y a-t-il une information liée à l'assassinat du président Kennedy qui montre que Lee Harvey Oswald était d'une manière ou d'une autre un agent de la CIA ou un agent ?» Et le document s'arrête là. La réponse de M. Helms est volontairement tronquée.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Affaire sensible, l'assassinat de Kennedy, volet numéro 3. Notre invité aujourd'hui, Jean-Baptiste Autoret, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes auteur et critique de cinéma, spécialiste du cinéma américain, du nouvel Hollywood et du cinéma d'Oliver Stone. Et vous avez publié en 2003, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, l'assassinat de JFK et le cinéma américain. C'est un essai qui interroge l'influence des 26 secondes du film de Zapruder dans le cinéma américain, entre autres. Alors je vais vous poser la question que je pose à chacun de mes invités cette semaine. Complot ou tireur isolé, vous ne le savez pas évidemment, personne ne le sait, mais quelle est votre intime conviction ?
Écoutez, c'est toujours très dangereux de répondre à cette question.
Oui, je sais.
Je vais quand même me lancer, parce que le livre auquel vous faites référence a une vingtaine d'années, là on part d'une affaire qui a plus de 60 ans, complot pour moi évidemment. Voilà, mon intime conviction, c'est qu'il y a complot. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Le complot, oui, mais qui, comment, ça, je n'en sais rien. Alors, Oliver Stone a sa thèse, d'autres ont d'autres thèses. Et d'ailleurs, il y a une quantité de thèses. Moi, qui ai passé un peu de temps à Dallas, à l'époque où j'écrivais ce livre-là, ça allait de thèses qui pouvaient éventuellement se défendre à des choses complètement farfelues. Le problème du complot, de ce qu'on appelle le complotisme, c'est que ça mélange, en fait, des gens qui sont à la fois des gens... On pourrait dire que Garrison est un complotiste, et moi, j'ai rencontré des gens qui me faisait des liens entre les petits gris, l'assassinat de Martin Luther King et celui de Kennedy. Donc mettre tous ces gens dans le même sac, ça pose un problème. Mais le fait de dire, peut-être qu'on y reviendra après, qu'il n'y a pas de complot, d'une certaine manière, c'est supprimer le rapport critique qu'on peut avoir à ça. Il faut bien penser qu'on est en 63. Mmh. Aujourd'hui, le complotisme nous a complètement envahis. On a le sentiment que dès qu'il se passe quelque chose, comme on a un doute à la fois sur les versions officielles, les gouvernements, voire sur les images, on dit tout de suite complot. Mais à l'origine, presque, on pourrait presque dire en 63, ce moment où l'Amérique passe de la confiance envers ses dirigeants du côté du doute, on pourrait presque dire, le complot, c'est juste une réaction presque saine, d'une certaine manière. Le complot, ça veut dire, est-ce que la version officielle qu'on nous a donnée, en l'occurrence le rapport de la commission Warren, on doit l'acheter, comme disent les Américains, le buy, à 100% ou pas ?
Alors, il y a effectivement la théorie du complot dont on parle beaucoup depuis quelques années, mais il existe des complots réels. Il n'y a pas que du fantasme.
Bien sûr, mais vous avez cité lors de votre récit l'affaire du Watergate. L'affaire du Watergate, c'est aussi un complot.
Bien sûr, réel.
Mais réel. C'est-à-dire que le complot, c'est quoi ? On pourrait dire que c'est un ensemble de gens qui, sous les radars ou de manière officieuse, agissent ensemble pour influer sur le cours de l'histoire. Voilà. Mais c'est la vie, c'est la politique, c'est même l'histoire en général. L'histoire est remplie de complots.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer que la thèse d'un tireur isolé n'est pas satisfaisante par rapport à l'importance de l'événement ?
Oui, enfin, là pour le coup, je pense que plus personne d'un peu sensé aujourd'hui, y compris parmi les plus réfractaires à l'égard des théories du complot, ne croit encore aujourd'hui que Oswald a été le seul tireur, qu'il a tiré 3 balles en 6 secondes. Plus personne ne croit à ça. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle est écornée dès 64-65, avant même, d'une certaine manière, Garrison et la fameuse projection publique du film d'Abraham Zapruder, avec l'étude de cette fameuse théorie de la fameuse balle magique. La pièce exhibite C-399, cette fameuse balle qui aurait causé 7 blessures en faisant des allers-retours totalement fous et farfelus dans l'air, on pourrait dire, sur le corps de Kennedy et sur celui de Connally. Et tout ça, après avoir provoqué 7 blessures, est ressorti complètement indemne et quasiment neuve. C'est-à-dire que la théorie de la balle magique inventée par un expert qui s'appelait Arlen Specter, sur laquelle est fondé tout le rapport Warren. C'est-à-dire que s'il y a effectivement un tir, une 4e balle que n'a pas tiré Oswald, ou si une des balles a été tirée depuis l'avant, comme vous le mentionnez, eu égard au mouvement de tête de JFK, s'il n'y a plus un seul tireur mais 2, tout de suite on passe de la théorie du tireur isolé à la théorie du complot.
France Inter. Sensible.
Jean-Baptiste Auré, avant de parler du film de Zapruder, nous ne les avons pas évoqués dans notre récit, mais d'autres films tournés sur la Dilip Plaza le 22 novembre 63, je crois, existent.
Oui, il y en a plusieurs, donc il y en a 4 qui sont très connus, qui sont devenus très connus. Grosso modo, ce sont tous des films, ils sont 4, donc on peut les citer, Maria Muchmore, Orville Nix, Charles Bronson et Robert Hughes. Voilà, c'est 4 petits films d'environ 1 minute 32 minutes, mais qui ont été complètement éclipsés par le film d'Abraham Zapruder, qui reste c'était évidemment le document central. Et ces films ont la particularité, alors ils sont tournés aussi en Super 8, ce sont aussi des films muets, donc ils ont les mêmes manques, on pourrait dire que les films des Zapruder, il leur manque le son. Et ce sont surtout des films qui ont été tournés depuis d'autres angles, parce que quand on prend La Limousine de JFK, le seul qui était à droite de la limousine au moment où la limousine passe sur Elm Street, là où il va se faire tuer, c'était Zapruder, sur un petit muret, soutenu par sa secrétaire. À gauche, ils sont les quatre autres personnes qui ont filmé étaient à gauche. Donc, ce sont des films qui ont évidemment provoqué comme ça des interprétations à n'en plus finir, puisque ce qui manquait au film de Zapruder, c'était un contre-champ, notamment ce qui se passe derrière Zapruder, et en l'occurrence, le fameux Texas Book Depository, d'où Oswald aurait tiré. Ces quatre films-là, certains d'entre eux arrivent par moments cadrent en fait ce Texas Book Depository, où maintenant est installé le Sixth Form Museum of Dallas. Alors évidemment, certains ont analysé ces images, certains ont vu des ombres au cinquième étage, au quatrième étage. Tout ça n'a fait qu'alimenter évidemment les différentes théories du complot. Mais il y a quatre petits films qu'on peut aujourd'hui voir en ligne, qui ont été déposés au Sixth Form Museum of Dallas et qui comptent parmi, on pourrait dire, les cinq films qui entourent l'assassinat de Kennedy, ce qui serait aujourd'hui complètement différent parce qu'on aurait à peu près 3500 smartphones au mètre carré. Donc c'est-à-dire que l'affaire JFK et l'important du film d'Abraham Zapruder, c'est aussi une époque, c'est 63. Aujourd'hui, un événement comme ça n'arriverait pas sans qu'il ait été multifilmé d'une certaine manière.
Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on tire au bout du compte du film de Zapruder ?
Zapruder, c'est pour moi c'est le point clé de ce que vous appeliez au début les conspirationnistes et les fanatiques de la thèse du terreur isolé, puisque ce film d'Abraham Zapruder, donc tourné à l'époque de l'assassinat, pour faire court, il y a plusieurs images qui vont d'abord être montrées dans Life, mais à chaque fois, en fait, à la demande d'ailleurs de Zapruder, les images dites graphiques, le fameux Z313, c'est le 313e photogramme au cours duquel le crâne de JFK explose. Le moment gore, on pourrait dire, du film Zapruder, n'est pas montré dans Life. Et quand il sera enfin monté, il y aura cette fameuse inversion des photogrammes dont vous parliez tout à l'heure, savoir qu'il a sa pensée que le crâne de JFK, que la tête de JFK a été plongée, projetée en avant, ce qui accrédite la thèse de
Oswald,
d'un tir à l'arrière, alors que sur le film, on voit qu'il a été projeté de l'autre côté. Donc le film de Zapruder, c'est le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma. C'est pas compliqué, c'est 477 photogrammes qui ont été décortiqués dans tous les sens. Certains ont dit qu'il était vrai, d'autres qu'il était faux, d'autres qu'il a été manipulé, d'autres qu'il a été trafiqué lors de son passage par Time Life, avec éventuellement une intervention des gens du FBI. Mais il faut rappeler quelque chose d'important, c'est que lorsque Garrison projette le film de Zapruder lors de du procès de la Nouvelle-Orléans. Donc, et d'ailleurs, on voit bien que ce qui intéresse Oliver Stone dans son film, c'est ce moment-là. C'est pas ce qui va advenir de Clay Shaw, puisqu'il n'en deviendra rien du tout de cet homme d'affaires. Par contre, l'événement le plus important, c'est la projection publique pour la première fois du film de Zapruder. Là où Garrison est malin, c'est qu'il est aidé par McLean. McLean, c'est un des premiers à avoir mis en doute la conclusion du rapport Warren. Il a écrit un livre qui s'appelle Rush to Judgment. Et avec lui, ils vont faire ensemble des copies pirates du film avant de le rendre au groupe Time Life. Et ce qui est important, c'est que toutes ces copies pirates un peu abîmés, en fait, vont être infusés ou diffusés dans le milieu universitaire et contre-culturel. Ce qui fait que bien avant que le film soit projeté en 75 à la télévision américaine, ça fait très très longtemps que les intellos, les artistes, les universitaires, tout le milieu de la contre-culture voient le film et voient des copies souvent qui sont des copies abîmées. Et il faut rappeler que Jim Garrison donnera un de ses premiers entretiens au magazine Playboy. C'est absolument passionnant, puisqu'au milieu des hardcore, des newdies, c'est comme ça que s'échangeait le film de Zapruder, comme un newdies, ce que montre d'ailleurs plusieurs films, comme notamment, je passe à Greetings de Brian De Palma en 68, qui explique qu'on pouvait avoir des femmes, grosso modo, des femmes nues sur une petite bobine Super 8, et en même temps, on pouvait voir le film d'Abraham Zapruder.
Qu'est-ce qu'il en a tiré, Zapruder, de ce film ?
Zapruder, vous voulez dire celui qui a filmé ?
Oui, à part le fait que c'était un personnage totalement inconnu qui est devenu mondialement célèbre.
Oui, parce que c'était le co-gérant d'une petite fabrique de Dallas qui s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, tout simplement. C'est qu'il a gagné quand même beaucoup d'argent parce que le film a été vendu cher, évidemment, à Time Life. Je crois que c'est quelque chose comme 150 000 dollars à l'époque, ce qui correspond en gros à 1 million d'euros aujourd'hui. Donc il a fait vivre à la fois sa famille et sans doute la génération d'après grâce à la vente de ce film-là. Et il a surtout fait un film qui allait complètement changer le visage du cinéma américain post-63, on pourrait dire.
Une toute dernière question, vous avez révélé comment les images de Zapruder hantent le cinéma américain des années 70. On peut évoquer les films les plus significatifs de cette tendance et on va finir avec ça.
Oui, il le hante. Rapidement. Il le hante pourquoi ? Parce que le film de Zapruder a des manques. Il lui manque un son, il lui manque un contre-champ, il y a des photogrammes qui manquent. À partir du moment où ça manque, le cinéma peut investiguer à son tour, ouais, mélangeant l'investigation esthétique et politique. Donc on pourrait dire que des films comme Parallax View d'Alain Pakula, à cause de l'assassinat en 74 avec Warren Beatty, est vraiment une relecture d'Assassinat JFK, Phantom of the Paradise, Conversation secrète de Francis Ford Coppola, et même Bonnie and Clyde, Arthur Penn. Lorsque Arthur Penn filme Bonnie and Clyde, à la fin du film, lors de la fusillade, il tient à ce qu'un bout du crâne de Warren Beatty s'échappe lors de la fusillade de finale, en référence à JFK, puisqu'il faut rappeler qu'Arthur Penn a été le conseiller technique de JFK lors de son débat contre Nixon en octobre 1960.
Et en France, il y a Icomicar.
Oui, qui est une sorte de version, un avatar, on pourrait dire une version de tous ces films du complot américains des années 70.
Mais assez fascinant d'ailleurs, hein,
bien fait. Si c'est que le cinéma américain a été complètement hanté par ça, jusque même dans les années 90, on pense à un film comme Un monde parfait de Clint Eastwood qui se passe le jour de l'assassinat de JFK, ou Docteur T et les femmes de Robert Altman.
Merci infiniment Jean-Baptiste Lauré
pour
tous ces éclairages et ces précisions apportées à une affaire vraiment très très compliquée. Merci. Affaire sensible aujourd'hui, la thèse du complot dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Wagon.